Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs Coaching qui vous inspire à développer votre plein potentiel. Alors merci beaucoup pour les retours que vous avez faits sur l'épisode du mois précédent sur trouver sa zone de confort. En fait, sortir de sa zone de confort pour atteindre sa zone de grandeur, dépasser sa zone de peur. Je vois que vous avez été très touchés par cet épisode-là. Alors merci beaucoup, ça m'encourage toujours à faire des nouveaux épisodes quand vous me donnez des bons commentaires comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez que le décor un petit peu du studio a changé parce que je suis en présence du premier invité du mois, Julien Doplé. Alors bienvenue dans l'émission.
Merci Anaïs, merci de me recevoir.
Mais oui, avec grand plaisir. Donc en fait, Julien, il est là aujourd'hui parce qu'on va parler de sport, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de défis qu'on peut relever à travers ces éléments-là. On va faire les liens aussi avec le coaching professionnel et comment en fait on peut sortir ces éléments-là en fait du sport peut-être à l'entrepreneuriat ou au monde professionnel. Alors Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Ouais, alors moi c'est Julien Doplé. Donc déjà, au cours de ma vie, j'ai eu la chance d'habiter dans plusieurs pays. Donc jusqu'à 11 ans, j'ai grandi en Afrique. Donc d'abord de 0 à 5 ans au Burkina Faso, de 6 ans à 11 ans en Namibie. Ça a été une expérience forcément qui m'a marqué et qui a défini beaucoup de choses pour la suite parce que j'ai toujours eu ces rêves de grandeur, de grands espaces, etc. Je suis rentré à 11 ans en France. Et puis, voilà, j'ai été diplômé ingénieur génie civil et j'ai fait aussi un master en développement d'affaires. Et puis après, je suis reparti dès que j'ai pu, en fait, à l'international. Donc, j'ai d'abord travaillé au Qatar sur le projet du métro avec Vinci Construction Grand Projet. Ensuite, au Vietnam sur un projet d'adduction en eau potable. Et finalement, je suis arrivé ici au Canada. Il y a maintenant 5 ans. Donc là, je suis sur le point de demander ma citoyenneté canadienne.
voilà. Oui, effectivement, un beau parcours ponctué d'une variété culturelle aussi qui a forgé ta personnalité. Et tu es aussi un grand sportif.
Ouais.
Tu as fait plusieurs événements sportifs, dont 3 Ironman.
Si 4 Ironman.
4 Ironman, ouais. Voilà. Donc est-ce que un Ironman, si ceux qui ne connaissent pas, tu peux juste décrire un petit peu ce que c'est.
Ouais, bien sûr. Donc un Ironman, c'est un triathlon déjà. Le triathlon, c'est 3 sports qui se suivent. Donc d'abord, il y a la natation, ensuite le vélo, puis la course. Et donc, il y a différentes... C'est un peu comme les vêtements, il y a différentes tailles. Donc, on part du XS au XXL. Et l'Ironman, c'est le XXL, donc les distances les plus longues qu'on peut avoir en triathlon. Donc, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, donc 42,2 km de course.
Ouais, ouais.
Et donc, t'enchaînes tout ça.
Ouais. Non, mais c'est impressionnant. Finir par un marathon, ça m'a toujours... Déjà, un marathon, en soi, c'est une épreuve.
Ouais,
mais là, tu finis par cette épreuve-là. C'est quand même assez...
Après le vélo, ça pique un peu.
Ouais, mais bon, c'est ça. Après le vélo, 180 km à vélo.
Mais le corps s'habitue, en fait. Mm. Le corps s'habitue. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Parce que c'est toujours comme repousser des limites et l'Ironman pour moi c'était un rêve à un moment donné et avant ça je viens plutôt du foot.
D'accord.
Pendant plusieurs années j'ai joué au foot, ensuite j'ai passé ce qu'on appelle le BNSSA en France, donc le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
D'accord.
Il fallait quand même un certain niveau en natation, donc je l'avais passé pour pouvoir travailler en saison. J'ai travaillé après par la suite en saison au Pays Basque pendant plusieurs étés.
Donc les sauveteurs sur la plage, c'était toi?
Ouais, alors moi j'étais dans un club de plage, le club Mickey. Il y a les clubs Mickey en France.
Okay.
Et donc pendant 4 saisons j'étais animateur maître nageur à la plage de Saint-Jean-de-Luz. Okay. Au Pays Basque. Et donc, je me suis régalé. Mais voilà, j'ai commencé vraiment la natation dans l'objectif de passer ce BNSSA. Et après, derrière, quand je suis rentré en école d'ingénieur, j'ai rencontré un certain Pierre qui, lui, était très cycliste. Et puis, ça a pas mal matché. Et puis, donc, on s'est comme pas mal entraîné ensemble. Lui m'a amené vers le vélo et puis moi, un peu plus vers la course et la natation, du coup. Et derrière, on s'est donné un objectif de faire notre premier Ironman l'année de notre diplôme, en fait.
D'accord, ok.
Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, donc moi, j'étais en fin de préparation au Qatar à ce moment-là. Donc, aussi sur des températures qui sont quand même assez, assez chaudes.
Ouais.
J'avais pas de vélo. Pour la natation, ça allait. Il y avait des piscines, etc. Il y a la piscine olympique. Mais pour la course, j'étais là-bas de février à juillet. Et à partir de fin mars, il fait très chaud au Qatar. On est sur du 45, 50, 55 degrés.
Wow.
Donc moi, je partais avec ma bouteille de 2 litres, aller courir. Et puis au bout d'une demi-heure, elle avait comme... Enfin, 20 minutes même, elle avait toute fondue. Et puis, et puis voilà, je m'arrêtais. Il fallait que je m'arrête après dans les garages pour demander à boire et tout.
Ah, carrément.
Mais donc c'était une prépa un peu de l'extrême niveau température, on va dire.
D'accord.
Et puis, après, je suis rentré en France et j'ai fini ma prépa vélo. Donc j'étais rentré comme le 14 juillet en France. Et je fais mon premier Ironman, il était genre le 28 août. Donc j'avais un mois et demi pour vraiment faire de la prépa bike pour finir la préparation. Et puis donc c'est ce que j'ai fait. Et donc la veille de ma soutenance d'ingénieur, je faisais mon premier Ironman, l'Ironman de Vichy en 2017.
D'accord, ok. Mais c'est quand même Impressionnant. Donc toi, tu commences le triathlon par le défi le plus haut.
Alors, j'avais fait en préparation deux, parce que c'était sur un projet sur 2 ans de faire ce premier Ironman. Donc, en vue de ça, j'avais fait le demi Ironman de Vichy en 2016.
D'accord.
Donc, je connaissais à peu près le parcours. C'était juste la même chose fois deux, en fait.
Ouais, ok.
Donc,
voilà. Distance, ouais. Ok, impressionnant. Et ça, après, petit à petit, ça t'a amené vers d'autres projets, vers plus le trail aussi.
Ouais, alors ça, c'est arrivé vraiment beaucoup plus tard. Mm-hmm. J'ai baigné dans le triathlon pendant une dizaine d'années où voilà, j'ai rêvé en fait d'Ironman. Et puis, c'est quand même super, super complet en fait le triathlon parce que bah, tu nages, tu roules, tu cours, donc tu as tous les muscles qui puissent potentiellement travailler. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est une vraie organisation. Moi, quand j'étais en école d'ingé, j'allais nager le midi, j'avais une heure, j'avais une heure dix, j'allais nager le midi, j'arrivais, j'étais toujours à la bourre quand je revenais en cours, j'allais courir le soir ou le week-end, et c'était une sacrée orga. Mais c'était
tout le temps, quoi.
C'est quelque chose qui venait me chercher de l'intérieur, de j'ai envie de faire ça,
Ouais.
J'ai envie, pourquoi il y aurait que les autres qui peuvent y arriver? On peut y arriver. On peut tous, on est capable tous de faire des choses incroyables.
Donc,
suffit d'avoir ses rêves, avoir la vision et puis après mettre l'énergie en face.
Ouais, mettre les actions en place. Mais c'est hyper inspirant de t'écouter parce que moi je débute dans le triathlon.
Ouais.
Et moi je vise pas un Ironman du tout.
Peut-être pas tout de suite.
Non, c'est ça, mais déjà de commencer à faire cette expérience-là. Mais c'est vrai, comme tu dis, je trouve que c'est un sport qui est hyper complet.
Ouais.
Et ça permet de diversifier aussi parce que juste courir ou juste nager ou tu sais, juste l'un des trois sports, ben, c'est assez limitant. Puis ça, même en termes de défis, comme tu dis, tu dis waouh, ok, triathlète, c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est vrai que en termes pour un Ironman, là, j'ai côtoyé plusieurs personnes qu'on en fait aussi. Et en termes de préparation, mais pas juste physique, c'est préparation mentale, comme 100%. Tu dis, avoir une vision, etc., mais aussi alimentairement parlant, tu peux pas faire n'importe quoi là.
Ouais, là, il y en a qui ont plus ou moins de... Moi, je suis pas le meilleur exemple en termes d'alimentation, mais honnêtement, l'entraînement, il fait beaucoup. C'est sûr que je pourrais optimiser sur pas mal de choses encore sur l'alimentation. Voilà, c'est pas moi, personnellement, c'est pas là où je suis le meilleur.
Non, okay.
Mais j'essaye de faire attention, effectivement, sur des périodes où j'arrive dans la phase finale de ma course, donc les 2-3 semaines qui ont précédé ma course. Là, je commence à me dire, ok, on va limiter certaines choses, on va peut-être prendre plus de choses que d'autres.
Ouais.
Et c'est sûr que, oui, effectivement, c'est... En fait, il y a plusieurs paramètres. Quand tu veux progresser, il y a plusieurs paramètres.
Mm-hmm.
En natation, en vélo et en course, on va avoir tout ce qui va être intensité. L'intensité, mettre de la vitesse, du fractionné. Ça, c'est ce qui va te permettre en fait, d'accélérer ta vitesse de fond.
Mm-hmm.
Ensuite, tu as le volume. Ensuite, tu as le D+. Ça, c'est comme les paramètres, donc le dénivelé. Donc,
ouais,
tu n'as pas forcément du coup en natation.
Oui, non,
mais en natation, tu peux avoir des courants, tu peux avoir... des forces opposées, exactement. Donc, en fait, c'est quelques paramètres sur lesquels il faut pouvoir jouer pour potentiellement progresser.
Mmh.
Et donc, ça, c'est vrai dans les trois sports.
Ouais.
Et après, derrière, c'est... En fait, tu peux faire tellement de choses quand tu fais du triathlon. Tu peux aller nager. On a la chance d'être au Canada ici. Tu as plein de lacs.
Ouais.
Tu peux aller faire des traversées de lacs. Tu peux aller rouler des 200 km sur des terrains qui sont incroyables. Tu vois des paysages fous. Là, moi, il y a un moment, j'avais fait Montréal-Québec en vélo. Tu vois plein de paysages. Mmh. J'avais fait la traversée du lac Simon, 12 km à la nage. C'est super. Tu vois même pas le bout.
Tu vois même pas l'autre côté du lac.
Tu vois même pas l'autre côté.
Ouais.
Puis boum, t'es parti. Et c'est magnifique. Et la course aussi, bah derrière, effectivement, je suis passé, donc j'avais fait cet Ironman de Vichy en 2017. Au début, mon target, c'était un Ironman un an sur deux.
Okay.
Je suis arrivé au Canada en 2019, j'ai fait l'Ironman de Mont-Tremblant ici. Ensuite, j'ai été sponsorisé par ma boîte, par mon ancienne boîte, sur l'Ironman de Nice en 2022.
Mmh.
Et derrière, avant l'Ironman de Nice 2022, j'ai fait le Canada Man. Donc en fait, tout ce qui est Ironman, c'est un label. Il y en a partout dans le monde. Les objectifs souvent des Ironman, c'est t'arrives dans les meilleurs spots potentiellement pour avoir ta qualif, pour aller faire les championnats du monde à Kona, Hawaï.
Ok.
Donc ça, c'est un peu le mindset. Donc t'as les demi Ironman, donc ce qu'on appelle les Ironman 70.3, qui sont en fait la distance cumulée des trois distances, donc des demi Ironman, donc 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course. Donc tu prends ces trois distances cumulées, tu les mets en miles, ça fait 70.3 miles.
Oh, okay,
c'est pour ça qu'on parle de Ironman 70.3.
Mm.
Donc ça, c'est quelqu'un qui s'entraîne quand même, peut potentiellement atteindre ça. Et derrière, le full Ironman, c'est le double. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà.
Tu disais ça par rapport aux qualifications.
Oui, c'est ça. Donc, tu as les demi-Ironman, où tu as les championnats du monde qui ont lieu à plein d'endroits différents. Et puis, les championnats du monde d'Iron Man où c'était vraiment la place était pour Kona quoi. Alors, mm-hmm. Je crois que ça a changé dernièrement, ils alternent avec Nice maintenant, je suis plus trop sûr, il faudrait que je revérifie, mais dans l'idée c'était ça. Donc tu allais pour aller chercher tes qualifs pour les championnats du monde.
Okay.
Et derrière, voilà, bah c'est un peu ça le.
Okay, c'est ce mindset. Que tu as fait ou
Non, moi j'étais non. pas loin à un moment d'avoir les qualifs, mais j'ai pas poussé plus que ça. Ouais. Je m'entraînais déjà 18-20 heures semaine ouais. avec mon boulot et pas mal de choses à côté.
Oui,
donc,
c'est ça.
Non, j'étais pas loin à un moment de l'avoir ouais. et j'ai pas poussé jusque-là. De toute façon, c'est qu'une question du temps que tu mets. Hein.
Ouais, non, mais clairement.
Oui, il y a des prédispositions, mais c'est des questions du temps que tu mets et puis de comment tu t'entraînes. Parce que tu as la quantité d'entraînement, mais tu as la qualité de l'entraînement.
Mm-hmm.
Et quand on parle justement de fractionner, etc., là, on parle sur la qualité de l'entraînement.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a pas mal de coureurs qui, moi, pendant très longtemps, je m'entraînais, mais je mettais pas de quali. Et à un moment donné, j'ai gagné un 10 km en 38 minutes, ce qui n'était pas un temps pour gagner un 10 km, mais c'était une petite course. Mm-hmm. Et je me suis fait approcher par un coach qui s'appelle Karl Ebert, qui est connu ici et qui m'a fait comprendre comment en fait fallait s'entraîner.
Mm-hmm.
Et donc j'avais donc c'était pour moi c'était ma dernière course, c'était après l'Ironman de Tremblant, c'était un 10 km après l'Ironman de Tremblant, et il y avait comme un marathon, le marathon du Mont-Royal, genre un mois et demi plus tard. Et donc je me suis fait approcher par Karl Ebert qui a en fait vu mes résultats que j'avais gagné, il m'a dit ouais je veux te coacher et tout. Je fais ok allez go, je me mets un dernier objectif, le marathon du Mont-Royal. Et là j'ai fait du tapis fractionné etc, j'en ai bavé vraiment.
Ouais, ouais.
Mais ouais, derrière, je suis allé.
C'est compliqué, hein, faire des fractionnés.
Ouais,
là,
ouais.
C'est facile à dire, mais tu sais, quand t'es encadré par un coach comme ça, un entraîneur sportif, bah, au moins, t'as un objectif et tu t'entraînes intelligemment parce
exact.
Que seul,
c'est ça.
C'est hyper dur. Enfin, moi, les fractionnés, j'en faisais jamais non plus avant de rentrer dans un club, quoi.
Ouais.
Parce que faire un fractionné, t'es tout seul. Tu dis, bon, j'arrête. De toute façon, il n'y a personne qui me regarde. Il n'y a personne qui. C'est bon, pourquoi je m'inflige ça?
Après,
mais quand t'es dans un mode de performance, bah, ça aide. Et oui, c'est dur, mais à la fin, t'as quand même du fun.
Ouais. Non, t'apprends à aimer, en fait. T'apprends à souffrir. Excuse-moi,
tu apprends
à aimer souffrir.
Ouais.
Ouais. Et en fait, voilà, donc j'ai eu ce coach, j'ai pris ce coach. Et puis derrière, je me suis entraîné pendant un mois et demi, avec vraiment en respectant à la lettre ce qu'il me disait. Et derrière, ça m'a emmené sur le marathon du Montréal avec 120 coureurs, j'ai gagné la course.
Ah ouais,
donc, j'ai
okay.
gagné le marathon premier. Du mec. Donc, ouais, c'était assez incroyable. J'ai gagné, c'était mon premier marathon officiel. Enfin. Or Ironman
ouais,
du coup,
ouais, oui, c'est ça.
Mais ouais, donc voilà. Et puis j'ai vu l'entraînement vraiment quand tu mettais de la qualité, ce que ça pouvait
ouais.
t'apporter. Donc là,
ouais.
j'ai pris une leçon ici, parce que pendant très longtemps, je courais, je mettais ma montre, allez, semi-marathon, 1h30, boum, c'est parti. Et puis
voilà. Quoi.
Et puis ouais, ouais. et puis en fait, quand tu mets, en fait, faut apprendre, parce que ce côté-là, où tu sais, quand t'es dans des débuts de course où ça part fort, ça part à
ouais.
3:20, à
ouais.
3:10 en pace, si tu l'as pas entraîné à la salle, tu peux pas le faire, quoi.
Non, c'est ça. Ouais.
Si tu restes, en fait, c'est toujours et c'est vrai que ça s'applique pour tout dans la vie. Si on revient sur l'entrepreneuriat ou quoi, c'est des alternances, et j'avais écouté ton podcast là-dessus sur tout ce qui est stress notamment,
ouais, ouais.
c'est des alternances entre des périodes de stress et des périodes de on savoure en fait,
ouais,
parce que t'as besoin d'avoir ces périodes de stress, c'est là où ça va te faire sortir de ton cadre
mm-hmm.
et de ta zone de confort,
ouais.
et c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas grandir,
ah, mais totalement,
et
ouais.
ça c'est vrai pour tout dans la vie en fait,
ouais, ouais,
donc après c'est important de post zone période de stress de pouvoir revenir sur une période où t'es ok, je savoure
oui.
un peu,
ouais, c'est
parce
ça.
Que si t'es toujours en période de stress, tu t'en sors pas,
non c'est clair,
mais derrière c'est l'alternance des deux aussi, c'est ça que j'aime dans le sport, c'est que quand tu réalises des objectifs comme ça. Moi, les Ironman, faire un Ironman, au début, c'était « Waouh, putain, c'est les super-héros ceux qui font ça. » Mais attends, non, c'est pas les super-héros, c'est des humains comme moi.
Ouais, ouais,
donc,
je peux le faire aussi.
Je peux le faire aussi. Par contre, il va falloir que je mette les moyens. Et j'ai
ouais.
mis les moyens, et c'était des heures et des heures et des heures d'entraînement.
Mm-hmm.
C'était mon quotidien, et ça joue un rôle dans ma vie, que ce soit avec les relations, avec les femmes avec qui j'ai pu partager ma vie, ou même des amis, ou très souvent, oh, bah, anniversaire, blablabla. Et ben bah, ouais, c'est des sacrifices.
Ouais, ouais,
c'est
ouais.
des sacrifices, parce que tu peux pas être... Tu peux essayer de faire un peu des deux, mais à un moment donné, ça dépend aussi de jusqu'à où tu veux aller.
Ouais, c'est ça.
C'est la capacité aussi de ok, se dire, c'est bien de profiter de la vie parce que c'est bien de s'entraîner pour réussir ses objectifs, ses rêves, etc. Mais derrière, la vie, elle passe et c'est super important de profiter de la vie. Si t'es toujours en mode, ouais, bah, je m'entraîne, en fait, ta vie, c'est boring, quoi.
C'est, ouais, ça
devient,
ouais.
Et donc, c'est réussir à trouver cet équilibre parce que derrière, je pense que, veux pas, quand tu arrives à réaliser des objectifs ou des rêves comme ça, déjà, tu te prouves à toi-même que tu es capable. Et tu prouves potentiellement aussi aux autres
mm-hmm.
que si toi, tu es capable, eux aussi sont capables.
Mm-hmm.
Et donc, d'un côté, tu as un côté un peu de... C'est pas, tu le fais pas pour montrer que, tu le fais pour toi.
Ouais,
parce
c'est
que c'est quelque chose qui vient te chercher.
Ouais.
C'est comme une flamme à l'intérieur qui dit « Ouais, je veux faire ça.
Ouais, » ouais, ouais.
Et tu le fais.
Ouais,
et ouais, là, ouais. tu franchis ta première ligne d'Iron Man. Et c'est dingue. Moi, j'ai pleuré. Ouais, clairement, j'ai pleuré.
Ouais, ouais, ouais,
j'ai pleuré parce
ouais.
que c'était juste...
Okay. Et c'est tous les efforts consentis aussi.
Tous les efforts.
Tu as dit que tu t'es préparé pendant 2 ans. Ouais. Tu fais des sacrifices, tu es dédié à ta pratique, tu loupes des activités parce que forcément, ouais, tu es focus sur ce que tu veux faire, tu veux y arriver, tu veux te donner les moyens de réussir. Donc forcément, en termes d'émotion, c'est un truc de malade aussi.
Exactement.
Physiquement, mentalement aussi, mentalement, parce qu'il faut pouvoir durer, hein, pendant, ouais, un Ironman. Ça, voilà, se fait pas en 1h30 comme, ouais, un semi. Là, tu sais, ça se fait vraiment sur une.
Ce qui est dur, en fait, c'est pas la course en elle-même.
Non.
C'est pas la course en elle-même. Ce qui est dur, c'est les mois d'entraînement avant,
ouais,
la course.
Ouais, c'est clair.
C'est,
ouais,
les mois d'entraînement, ouais, qu'il faut, ouais, se lever tôt le matin, qu'il faut aller nager le midi, mm-hmm, qu'il faut, ou toi, tous tes collègues, ils sont là en train de manger ensemble le midi, toi, t'es là, bah non, ben t'es l'autiste qui part aller nager,
ouais, c'est ça.
Puis tu reviens et tu sais rien de ce qu'ils ont parlé de midi, toi, t'es là, ouais, bah j'ai fait 2 km, super.
Ouais, voilà, c'est ça, voilà, ouais, le lien fait... social, il est moins là.
Le parce lien que... social, il est moins là. Et c'est là où derrière, j'ai compris, et que là, je me suis orienté progressivement dans le trail. Donc voilà, pour terminer sur le triathlon, donc l'Ironman de Vichy en 2017, Mont-Tremblant en 2019, le Canadaman en 2021, super expérience. Donc, qui ne fait pas partie du label Ironman, mais du label Extreme Triathlon. C'est, okay, les mêmes distances avec des dénivelés beaucoup,
ouais,
plus importants, etc.
C'est ça que j'allais te demander aussi.
Donc, tu avais,
ouais,
genre sur le bike, tu avais 2600 mètres de D+, et sur la course, 1800 mètres de D+.
Ah oui,
donc, avec
même,
les mêmes distances qu'on parlait tout à l'heure.
D'accord, ouais, c'est ça.
Et cette course-là, je m'étais vraiment bien entraîné. J'ai eu un coach, Olivier Morène, qui est coach notamment chez Etienne, qui m'a vraiment bien entraîné. J'ai terminé 6e, premier de KT.
Waouh!
Et ça, c'était incroyable.
Premier de ta catégorie?
Premier de ma catégorie, ouais, et 6e overall. Okay. À 9 minutes du troisième, donc à 9 minutes potentiellement du podium, sachant que voilà, j'avais pas trop travaillé le D+ en bike, et je me dis, waouh, j'aurais pu, ouais, potentiellement aller faire un podium sur le Canadaman si, ouais, j'avais poussé un peu plus.
Ouais, ouais.
Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh, moi là, Julien Doplet,
ouais, je suis chiant. Ouais, ouais.
Et j'arrive
le
à faire des trucs comme ça.
Foot,
le gars qui joue au foot là, avec ses potes là. Et, ouais,
ouais, c'est ça, donc comme quoi, tout est possible. Ouais.
Tout est possible.
Ouais.
C'est juste en fait le temps, l'énergie, et puis c'est les années aussi, parce,
ouais,
qu'il y a des gars qui arrivent et qui ont été. Qui sont entraînés quand ils étaient jeunes. En natation, on le voit beaucoup.
Ouais.
Qui ont vraiment pris la bonne technique quand,
oui,
ils étaient,
oui,
jeunes.
Oui, je le sens beaucoup, moi aussi, parce ça que aussi. J'ai appris à nager que là, récemment.
Okay. Hein.
Et quand je me suis lancé le défi du triathlon, je me suis dit, OK, le plus gros défi que tu vas relever, ma fille, c'est apprendre à nager. Parce que je savais me déplacer dans l'eau et tout, mais rien à voir avec... Et là, je le vois vraiment. Ceux, ouais, qui ont appris à nager enfant versus moi qui apprends à nager maintenant, il y a un écart. Hein.
Ah oui, mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà, il faut... C'est chaque chose à son temps. Moi, j'ai commencé, oui, je savais nager, mais j'ai commencé à vraiment nager à 20 ans.
Ouais.
20 à 30 ans, je nageais 2 à 3 fois à semaine.
Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la constance, c'est la dédication,
ouais,
c'est le nombre d'heures que tu passes,
ouais,
là-dedans, l'expérience,
ouais,
que tu mets à travers ça. Puis d'Ironman en Ironman aussi, t'apprends, ouais, tu te corriges.
Exact.
Mais c'est ça, la question que j'avais en tête pour toi, c'était aussi, tu sais, parce qu'un Ironman, donc qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un deuxième? Et finalement, mais tu y as déjà répondu, c'est en termes de dénivelé, etc. Parce que j'ai vu dans certains triathlons où t'as des dénivelés différents. Tu sais, j'en ai vu un dans les Pyrénées, par exemple, ouais, en France, où là carrément.
L'Embraman en France.
Ouais. Ouais, c'est ça, où là t'as des défis supplémentaires. Mais tu sais, qu'est-ce qui te pousse à faire autant d'Ironman dans ta
vie? Je pense que là, on parle un peu du, on va partir un peu du sport, mais on va aller plus sur la construction de soi, en fait.
Ouais.
Je pense que enfant. J'ai lu Les 5 blessures là, de Lise Bourgeois, je ne sais pas si tu l'as lu,
ouais,
aussi.
Oui, bien sûr. Ouais.
On a tous des blessures de par notre enfance.
Mm-hmm.
Donc, il y en a 5, la trahison, le rejet, abandon, humiliation et injustice.
Mm.
Et par rapport à ces 5 blessures-là, derrière, on a comme des masques et des personnalités qu'on va développer par rapport à ces blessures-là. Donc, moi, j'ai appris c'était quoi mes blessures.
Mm.
Et je sais que voilà, j'ai comme un masque un peu du contrôlant, si on veut, là, par,
ouais,
rapport à ces blessures-là. Et en fait, je pense que Moi, ma blessure, ça a été l'abandon par rapport à une relation que j'ai eue compliquée avec ma mère. Et bref, on ne va pas rentrer dans ces détails. Mais ça a fait que je me suis dit, attends, j'ai eu ce sentiment un peu de... Ouais, j'ai eu ce sentiment à un moment où je me suis senti seul.
Ouais.
Quand le retour d'Afrique, il a été compliqué. Mmh. On a eu une enfance en Afrique qui était incroyable. Mais en retour en France, ça a été compliqué. On a été comme un peu livrés à nous-mêmes très jeunes. Moi, je suis parti de la maison à 14 ans en internat.
D'accord.
Et, en fait, je me suis dit, mais potentiellement, si je fais rien, j'ai rien.
Mmh.
Donc, j'ai tout, en fait. Si je fais rien, j'ai rien, mais du coup, j'ai tout. Parce qu'il n'y a que moi qui va pouvoir décider d'être maître de ma,
ouais,
vie.
Ouais, ouais.
Et après, c'est des rêves. Il y a des rêves comme ça, il y a des rêves qui commencent à apparaître. Tu rencontres du monde, ça t'inspire.
Mmh.
Et puis là, tu dis, putain, mais j'aimerais faire ça. Mais pourquoi lui, il fait ça? Mais je suis sûr que je suis capable de faire ça aussi.
Ouais,
après,
ouais,
c'est mettre l'énergie.
Ouais.
Mettre l'énergie et juste... Parce que tout seul, en fait, on ne fait rien, déjà.
Mmh.
Enfin, si, on fait des choses. On fait des choses. Moi, j'ai appris, on va y revenir après, mais j'ai appris, et là, j'ai un exemple qui est flagrant là-dessus, c'est que tout seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Ouais, c'est des clichés, mais c'est vrai.
Non, c'est pas un cliché. C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Là, tu vois, on est en train de faire un film sur la Diagonale des Fous qu'on a fait au mois d'octobre.
Ouais.
Kevin et moi, jamais on aurait fait tout ce travail si on était individuel.
Ah non, non,
ça aurait, ce serait bâclé puis belle lurette, là, tout ça.
Ah, ouais.
Mais juste le fait d'être ensemble. Allez, on y va. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas.
Ouais. Que ce soit dans les projets, dans les entraînements.
Dans les projets, dans les entraînements.
T'entraîner avec un coach, avec un groupe aussi, ouais. L'effet de groupe, ouais. C'est vraiment puissant, effectivement.
Ouais. T'as un phénomène de puissance. Et donc voilà, donc, on va arrêter là sur le triathlon.
Le triathlon, c'est bon.
Triathlon, c'est okay. Good. Dans les trois sports,
ouais.
Je me classais à peu près dans les 3% en course en général.
Okay.
Quand je faisais des courses, j'ai commencé. Première course que j'ai fait ici au Canada, c'était le Mont Orford, 50 km, j'avais fini deuxième. Voilà, je me classais quand même bien sur la course. En natation, j'étais comme dans les 5-7% premiers sur un Ironman. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, je sortais en 1h00 de l'eau, quoi. Donc ça fait
sur une
moyenne
à
1,38 au 100 mètres, okay. À peu près, 1,37, ah, oui. 1,38 au 100 mètres.
C'est très rapide.
Voilà.
C'est la première fois que j'ai eu mes statistiques, parce qu'au début, je savais pas ce que ça voulait dire, toutes ces statistiques. Puis quand j'ai eu ma montre, j'ai commencé à nager. Puis le premier, je crois, cours de natation que je fais, ça me dit 15 minutes au 100 mètres. Et là, je regarde ça, je dis, mais en fait, à pied, c'est beaucoup plus rapide.
Je nage plus, les gars.
Je nage plus,
vas-y, ouais, exact. Et en bike, ouais, c'était mon point faible, un peu le bike. J'ai commencé plus sur tard et je me suis quand même entraîné, hein, mais voilà, j'étais dans les 12-15% premiers. Donc à chaque fois, en fait, si j'avais voulu vraiment progresser et aller chercher championnat du monde ou quoi, ou vraiment plus aller dans cette direction-là, il aurait fallu que je pousse un peu plus en bike. Mmh, parce qu'en natation et en course.
Ouais, mais c'est la plus longue distance aussi.
Ouais, bah,
à
c'est
vélo.
Ça.
Ouais.
C'est ça, c'est que si tu regardes, hein, si on revient sur le triathlon, en natation, les premiers, ils vont sortir dans les 50 minutes,
ouais.
Les professionnels de la natation. Donc moi, tu vois, je me classe quand même, ça va. Je sors en 1 heure. Et les plus longs, ils vont sortir peut-être en 1h25, 1h30.
Mm-hmm.
Donc entre les premiers et les derniers, tu vas avoir un 40 minutes.
Ouais.
En bike, les premiers, ils vont peut-être sortir en 4 heures. Peut-être un tout petit peu en dessous des 4 heures.
Ah ouais, hein.
Je ne sais plus exactement les stats, mais c'est par là.
Ouais.
Et les derniers, ils vont sortir en 6h30, 7h.
Mm.
Donc tu as 3 heures.
Ouais, potentiellement d'écart. Ouais, c'est ça, ouais. Donc l'écart se creuse au niveau du vélo. Ouais,
au niveau du vélo. Mm. Et sur le marathon, tu vas en avoir qui vont finir en 3h05, 3h10. Je crois que c'est assez rare quand même en dessous de 3 heures post-Ironman, mais peut-être les pros, ils le font, je ne sais plus exactement. Mais voilà. Et donc 3h05, et quelqu'un à 4h30, 5h qui va sortir un peu lambda.
Mm-hmm.
Donc tu as 1h30, 2 heures sur marathon. On a dit combien sur le vélo? On a dit
3 heures
sur le vélo et 40 minutes, on va dire, sur la natation. Donc si tu analyses ça, tu dis en fait, un bon triathlète potentiellement est très bon cycliste, puis très bon coureur, puis très bon nageur.
Mm-hmm.
Dans l'ordre.
Ouais.
Moi, j'étais assez bon coureur, plutôt bon nageur. Je me débrouillais en vélo, mais pour aller chercher plus, il aurait fallu que je fasse plus d'heures.
Ouais.
Et honnêtement, j'en ai bouffé des week-ends.
Ouais, non, c'est ça.
Et quand t'habites en plus au Québec, où t'as de la neige jusqu'au mois d'avril.
Ouais, ça c'est dur.
Alors
ça,
là, je peux te dire que le home trainer, là, moi.
Ah non, donc, mais c'est... ah non, mais c'est mignon, quoi, le home trainer à côté. Enfin, tu sais, j'ai fait un voyage au Portugal à vélo pendant 6 jours. On partait de Lisbonne, on est allé jusqu'à Sagre, 400 km de vélo, puis 4500 mètres de dénivelé. Moi, je me suis entraînée sur mon home trainer, mais j'étais pas prête.
Bah ouais.
J'étais pas prête à du tout ce que j'ai vécu, quoi. Donc, ça, c'est bien pour l'entretien, tu vois, mais c'est pas effectivement avec l'hiver qu'on a ici, c'est hyper compliqué.
C'est compliqué. Moi, quand j'ai fait l'Ironman de Nice, il est arrivé, c'était le 26 juin. Okay. Il avait neigé jusqu'au mois d'avril.
Ah ouais.
Comment tu t'entraînes vraiment? Tu vas faire des heures et des heures sur le home trainer? Moi, franchement,
non, c'est ça.
Ça m'intéresse pas.
Puis en même temps, à côté de ça, t'as une vie. Enfin,
bah
t'es pas professionnel là-dedans. Tu fais ça pour le plaisir,
exact.
Pour le dépassement de soi. T'sais, tu as dit que ça t'a aidé à développer ta confiance en toi, à augmenter ton estime de toi et tout. Mais tu sais, c'est du plaisir. T'es pas professionnel, t'es pas rémunéré pour faire ça. Et tu mets énormément d'heures et d'efforts là-dedans. Donc à un moment donné, t'as un équilibre à aller chercher entre... comment tu veux performer, comment tu veux te préparer et vivre.
Exactement, exactement. Et de toute façon, en fait, on a tous le même temps. Hein.
Ouais.
Déjà, on a tous le même temps.
Ouais, clairement.
24 heures dans une journée, 7 jours
sur 7. Qu'on soit riche, pauvre, intelligent, idiot.
Ça, c'est un facteur qu'on a tous. Maintenant, c'est comment on l'utilise, ce temps.
Mm-hmm.
Parce que le temps que potentiellement, moi, j'ai pu mettre dans mes entraînements,
c'est
du temps que je n'ai pas mis à devenir un artiste, guitariste, à devenir je ne sais pas quoi.
Oui,
c'est
autre chose,
c'est des choix que j'ai fait.
Exact.
Mais derrière, ce que j'aime beaucoup... Donc, j'ai décidé de partir un peu du triathlon parce que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, même si...
Oui, au bout de 4 Ironman.
Voilà, au bout de 4 Ironman, t'as vu la boucle, ok, tu sais comment ça se passe. C'était en course où j'étais le meilleur, déjà.
Ouais.
Et il s'avère que le trail, j'ai fait de la route, un peu. Mais le trail, il y a une communauté qui est dingue. Mmh. Quand tu habites à Montréal, quand tu habites à Montréal en 2023-2024, il y a une communauté qui est malade. Il y a toujours des groupes, il y a toujours... on voit une montée. Il y a eu post-Covid, là. Il y a eu des gens qui ont mené le pas, là. Bunche Blanchard, voilà, Marianne Hogan, etc., qui ont ouvert un peu les portes et ont fait rêver des gens comme quoi des choses incroyables étaient possibles juste avec la course. Donc, je pense que ça a contribué. Mais pas que. C'est juste... Il y a eu l'effet Covid où une paire de chaussures, c'est facile aussi.
Ouais, l'accessibilité. Mais c'est ça. C'est ce que j'aime aussi de la course. Parce que sinon, les autres sports, il faut s'équiper. Il faut aller dans une piscine. Il faut avoir un home trainer. Il y a toujours un obstacle Alors que la course, ben, c'est l'accessibilité. Tu mets une paire de baskets et tu vas courir.
Et tu pars.
Ouais.
Et donc, maintenant, si on revient aussi sur l'aspect communautaire, l'aspect justement ensemble, on va loin, comme on est en train de parler, c'est qu'il y a toujours des événements. Et moi, il y a un truc que j'ai compris sur le tard. C'est Marianne Hogan qui m'a fait ce putain de déclic. Enfin, en suivant, je voyais, il y a tout le temps, elle s'entraînait, genre 5,41 en pace. Genre, mais je dis, mais tout le monde parle d'elle. Elle fait deuxième à l'UTMB, elle court comme ça. Et là, j'ai compris après, en lisant, en parlant, 80% de ton entraînement doit se faire dans les zones où tu es comme assez à l'aise. Mm-hmm. Dans les zones de travail où tu es assez à l'aise. Mm-hmm. Et donc ça te permet en fait, de tout ce 80% d'entraînement-là, de pouvoir le faire avec d'autres personnes.
Ouais, clairement.
Et 20%, tu le fais en fractionné et tu le fais en quali. Et là, tu pousses. Parce que c'est en comprenant ça que je me suis dit, mais en fait, ça devient plus un sport solitaire.
Non, clairement.
Et je le vois aujourd'hui, toutes les connexions possibles. Il y a tellement de projets, tous les projets quasiment que je suis en train de monter en ce moment, entrepreneuriat, pas tous, mais quasiment, sont autour de cette communauté que j'ai réussi à faire et à m'entourer. Parce que, en allant à différents événements, en faisant ce que j'aime, je suis allé rencontrer d'autres personnes qui aimaient ça aussi. Et derrière, on fait plein d'events à gauche, à droite. C'est super, on se régale.
Ouais.
Et derrière, bah, tu rencontres des gens qui, OK, ils aiment la course, mais potentiellement, ils aiment autre chose.
Ouais.
Et donc, c'est en fait, tu vas chercher potentiellement des gens qui sont passionnés aussi. Parce que quand tu fais du sport et que tu pousses comme ça aussi, c'est ça qui est bon.
Ah,
c'est que c'est des gens passionnés en général.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, quand tu veux avoir des performances, avoir des défis, des grands, comme toute l'implication que tu mets, ben forcément, à un moment donné, soit tu es passionné ou soit tu arrêtes.
Oui, exact. Et donc, voilà. Et donc, j'ai décidé de quitter le triathlon et puis temporairement, potentiellement, parce que j'ai deux, trois projets de triathlon que j'aimerais réaliser encore, mais ça reviendra un peu plus tard, je pense.
C'est cyclique. Et là, finalement, tu as laissé le triathlon pour te mettre sur du trail, donc de la course plutôt en montagne, avec des dénivelés, avec des racines, avec des trucs qui glissent.
Ouais, exactement.
Et donc là, ce changement-là, tu l'as fait une fois que tu avais terminé tes triathlons.
Ouais. J'ai posé mon l'Ironman de Nice 2022, 26 juin. J'ai posé mon vélo, j'en ai jamais refait depuis. J'avais un peu une écœur en titre du vélo.
Ouais.
Puis j'ai eu un accident aussi en vélo assez grave.
Ouais.
Enfin, assez grave. Non, pas assez grave parce que j'ai rien de cassé, mais par contre, j'ai des cicatrices. Je suis rentré dans une voiture qui a pilé devant moi. Je suis rentré dans la fenêtre arrière. Donc, je me suis fait recoudre à 7 endroits par rapport à cet accident-là. Et je me suis dit aussi, là, Julien, réfléchis parce que la vie est belle, profitons-en. Et j'ai des presque accidents aussi que j'ai eu où ça aurait pu être vraiment plus grave.
Ouais.
Et donc ça, c'est un truc aussi que je me suis dit, voilà, je sais pas.
Ouais,
mais bon, bref, de toute façon, je voulais un peu switcher aussi. J'avais
donc
comme
ça a été aussi une raison supplémentaire qui t'a permis de switcher vers
l'ultra trail. Et donc voilà. Et donc j'ai 26 juin 2022, je termine mon Ironman de Nice, je pose mon vélo, je fais la traversée du lac Simon 12 km nage. Et puis, qui s'est très bien passé, j'ai terminé... Je terminais deuxième homme sur la traversée. Bon, on n'était pas beaucoup à nager, on était 13. Mais c'était quand même cool. Et puis, juste de voir que tu es capable de faire cette longueur-là.
En natation, c'est hyper dur. Hein, 12 km, enfin même 1,5 km pour un olympique, c'est dur. Mais là, 12 km...
Après, c'est mécanique. Hein.
Ouais.
Donc, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est cette mécanique. Et puis, c'est ton taux d'usure un peu pendant la course qui va...
Mais par exemple, tu vois, tu ne peux pas te ravitailler pendant la natation
Ça. Quand tu fais des longues distances comme ça en eau libre, tu as un kayak qui t'accompagne.
Okay.
Et ce kayak-là, il a potentiellement tes barres, tes trucs.
Okay.
Donc, si tu veux, tu peux...
Tu peux faire une pause.
Tu n'as pas le droit de toucher le kayak.
Ok.
Tu n'as pas le droit de rien toucher, en fait. Okay. C'est les règles. Mais par contre, il peut te donner une barre comme ça.
D'accord. Dans le tien. Au poisson.
C'est ça.
Ok, d'accord.
Mais donc voilà. Donc après, natation.
Ce 12-là,
Et après, objectif, trail. Et donc, je terminais par le trail de Bromont, l'ultra trail de Bromont, le 80 km. Et puis, je voulais faire un 100 km pour mon premier 100 km course de l'année. Donc, j'ai fait une grosse partie du tour de l'île de Montréal. Mmh. Je visais 125 de base.
Ouais.
Et ouais, j'ai fatigué un peu. Enfin, la route aussi, c'est ça ouais, pas ouais, basse. Ouais. Et puis, voilà, j'avais pas l'habitude encore de ce genre de distance. Donc, ouais, j'ai eu comme 4-5 personnes qui m'ont accompagné autour de l'île.
Ouais.
Et puis, j'ai terminé mes 100 km. Mes premiers 100 km, c'était en mois de novembre.
C'est énorme, ouais.
Et puis, voilà. Et puis, après, l'objectif, c'était... 2023, c'était... En fait, on s'est arrivé, j'ai pas mal de potes autour de moi ou qui étaient un peu dans le triathlon, on s'entraînait comme pas mal ensemble. Et puis, on a fait une soirée là chez un pote, Robin, et on s'est dit, bon, c'est quoi les objectifs de cette année-là? Ah, triathlon, je sais pas. Ah, moi, je veux mettre sur l'ultra trail. Ah ouais, moi aussi. Je pensais à la diagonale. Ah, moi aussi, la diagonale des fous. Boum,
allez, let's go.
Et donc, voilà, on est parti, on s'est monté une équipe. Et puis, on a fait tout un build-up incroyable. L'année dernière, j'ai eu une saison incroyable en course.
Ouais.
Je suis très reconnaissant pour ça. J'ai travaillé, c'est sûr, mais tout, c'est quand même, les étoiles se sont quand même bien alignées. J'ai enchaîné des podiums sur l'année. J'ai commencé par la cryo, le 108 km Gaspésia, le 101 km Ultra Trail des Chic-Chocs, le 108 km Forion. Et une course dans le Vermont aussi, 80 km que j'ai gagné.
Mmh.
Et donc, tout ce build-up dans l'objectif de la diagonale des fous.
Ouais, c'est parce ça. Que quand c'est comme une préparation pour cet objectif-là.
Exact.
Okay.
En fait, y a plein de podcasts qui en parlent.
Ouais.
Il faut comme avoir un objectif A, qui est genre ton target, et tes objectifs comme intermédiaires qui te permettent et de faire le build-up et d'arriver à cet objectif-là.
Ouais, c'est ça. On fait la même chose en coaching. Hein. En coaching, quand j'accompagne quelqu'un, on détermine un objectif cible. Tu sais, moi, je dis toujours, c'est ta montagne à gravir, mais clairement une montagne. Et après, c'est ton plan d'action. Donc, c'est soit des objectifs intermédiaires que tu te mets ou tu sais, des choses que tu mets en place qui vont vers cet objectif-là. Ouais. Donc, pas à pas, tu te prépares à aller vers ça. Donc, tu sais, en sport, c'est exactement la même chose.
Et en fait, il y a tellement de liens entre l'entrepreneuriat et les sports, notamment d'endurance.
Ah ouais, clairement.
Déjà, il y a une chose, c'est la vision. Moi, j'ai appris quelque chose parce que là, je monte beaucoup de projets en ce moment. Là, je peux en reparler après, mais j'ai beaucoup de projets qui sont en train de se lancer. Mais la première chose, c'est d'avoir une vision. D'avoir une vision de « je veux me rendre là ».
Là, ouais, clairement.
Et maintenant, c'est comment tu fais. Comment tu fais. Donc, pour aller chercher ce comment, il faut s'entourer.
Ouais.
Donc, il faut réussir à fédérer autour de cette vision. À partager ta vision et derrière à catalyser, c'est-à-dire entraîner les personnes avec toi, à partir, à que, en fait, faire naître comme un feu qu'on essaie de faire naître, faire naître une petite flamme, qui vont se dire, waouh, ouais, c'est une bonne idée, tiens.
Ouais, c'est ça, qu'ils embarquent avec toi, parce que quand tu démarres un projet entrepreneurial, t'es un peu foufou, quoi.
Ouais.
T'sais, parce que tu démarres un truc, soit ça existe déjà, mais ça a pas fonctionné.
Exact.
T'sais, tu te lances avec ta vision, puis là, t'embarques les gens pour fédérer, mais qui croient en ton projet et qui s'investissent autant que toi.
Que toi, exact. Et c'est là, en fait, où tu commences à pouvoir potentiellement faire des choses.
Ouais.
Parce que tout seul, tu peux faire des choses, mais tu n'y arriveras jamais aussi loin que des personnes. Moi, je le vois, Kevin, on travaille sur le film. Quand je ne suis pas là, il essaie d'avancer comme il peut. Et puis après, on essaie de se voir un maximum pour faire avancer. Là, je lance une boîte d'événementiels sportifs. Je me suis entouré de 5 autres personnes qui sont ultra passionnées. Parce qu'aussi, c'est derrière, c'est trouver les bonnes personnes, les réussir à les mettre, ou eux, enfin les mettre en toute modestie. Mais c'est pas les mettre, genre, tu mets ça, non, c'est juste mettre les personnes à la bonne place.
Oui,
là
sur
où,
la bonne chaise.
Là où,
ouais,
ils, ont envie, là où ils ont envie d'être.
Ouais, les mettre sur leur X, on dit aussi.
Les
ça.
Mettre sur leur X, ouais,
c'est ça. Qu'ils se sentent bien, et quand t'es un employé qui est bien ou quelqu'un, un partenaire d'affaires qui est là où il devrait être, ben, il est d'autant plus performant.
Exactement.
Et il a encore en plus envie de se
Exactement.
Donner. Ouais, tout à fait.
Moi, Kevin, il m'a dit je voulais faire potentiellement des films, des podcasts. Parfait. J'ai une partie prod pour la boîte. Julien Comte, qui est un très bon ami ici, lui, c'était moi, j'aimerais faire des événements sportifs. Parfait. Sandy, quelqu'un que j'ai rencontré, qui est en nutrition musculation, qui a fait sa formation là-dedans et qui est passionné de ça, elle a essayé de se mettre à son compte et qui a pas réussi. Enfin, qui a essayé, mais toute seule, encore une fois, c'était dur.
Ouais, ouais.
Et Cécile pour la partie santé, bien-être, coaching, santé, bien-être, yoga, etc. Et mon pote Marwan, IT, passionné de course, etc. aussi. Donc, trouver toutes ces personnes-là pour faire un ensemble,
un collectif
un peu.
Ça,
donc, je me suis entouré de tout ça et on s'appelle régulièrement, on se réunit régulièrement pour pouvoir entretenir en fait cette flamme déjà.
Ouais, tout à fait.
Parce que t'as la vision, ok, tu fais d'air, ok, mais d'air, il faut ramer.
Et en rythme.
Et c'est en fait, c'est un travail de longue haleine, l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est, voilà. Donc
c'est un sport d'endurance à part entière.
C'est un sport d'endurance à part entière, exactement. Et donc, ce projet-là. Ensuite, là, j'ai une boîte de rénovation. J'ai ma licence RBQ, entrepreneur général aussi, que j'ai dû passer parce que pendant 3 ans et demi, j'ai accompagné une filiale d'une société française à se développer ici. Je suis parti de zéro. Et à la fin, on était comme 150. On a fait 4 acquisitions de sociétés. Mmh. Et voilà. Donc j'ai eu cette expérience entrepreneuriale qui a fait que j'étais entouré aussi d'entrepreneurs. Et encore une fois, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est que des personnes ont montré que c'était capable. Mmh, mmh. Il faut le voir.
Ouais, c'est
il faut
ça.
Le voir d'abord
Mais c'est
pour avoir
cette
l'idée.
Inspiration, en fait. C'est d'avoir une inspiration qui te ouais. permet de dire, comme quand tu as démarré ton Ironman, ouais. tu t'es dit, OK, mais je peux le faire moi aussi.
Ouais.
Ça a été la même chose. Moi, quand je me suis inscrite dans mon club de triathlon, je me suis dit, OK, mais il y en a d'autres qui le font, ça ouais. a l'air cool. OK, ben, je m'essaye, tu sais, puis je exact. Vois ce que ça donne. Mais c'est d'abord, tu as l'inspiration,
ouais.
et après, tu mets en place ta
exactement.
Vision.
Ouais. C'est exactement ça. C'est ce côté inspiration, effectivement, t'as tout ce qui est interne dans toi,
ouais.
mais t'as tout ce qui est externe, ouais. et cet apport externe permet de donner d'imagination
de
à l'interne,
ouais, ouais,
et derrière, c'est le travail que tu vas faire en interne qui va te permettre de réaliser ce que t'as envie de réaliser.
Ouais, tout à fait.
Et c'est ça qui est super intéressant, en fait.
Ouais, ouais. Puis d'utiliser aussi l'intelligence collective du groupe
ouais.
Pour amener à d'autres idées. Parce Merci. Que chaque individu arrive avec ses propres idées, sa propre vision, ses propres valeurs, et mis tout ça ensemble, mais ça donne une espèce d'intelligence plus un. Tu sais, c'est ouais. encore une autre forme d'intelligence, et tu développes des idées que tu n'aurais pas forcément eues. Une idée en amène une autre, une confrontation d'idées amène ailleurs, et tu te dis, ah, mais j'avais pas pensé à ça. Ça te permet aussi d'éviter d'avoir des angles morts, parce que
Exactement.
Quand tu es tout seul, tu es tout seul à être sur ton vélo en train de ouais. pédaler, tu vois,
ouais.
tu vois pas forcément ce qui se passe derrière
ouais.
ou ce qui s'en vient plus loin. Alors que quand tu partages des points de vue différents et de casser un peu ce moule de l'homogénéité là, qu'on voit ouais. parfois, d'avoir ces différentes opinions, ça permet de penser ton idée plus loin et
ouais.
que tu n'aurais pas forcément eu si tu étais resté tout seul dans
100%.
Ton coin. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent des profils très différents.
Ouais.
Parce que ça permet d'avoir des visions, des approches complètement différentes. Un soir, il y avait un défi des puces avec la boutique Courir.
Ouais.
Et il y a une Anna, Hélène, qui m'a proposé de faire le défi avec elle.
Mm-hmm.
C'était en mixte, donc on l'a fait ensemble. Et elle m'a dit, moi j'aimerais vraiment écrire un livre.
Mmh.
Et là je me suis dit, putain.
Une autre idée.
Et moi ça faisait un truc qui me travaillait aussi potentiellement d'écrire un livre sur mes voyages, sur le dépassement de soi. Et donc, j'en ai parlé, on en a parlé. Et puis là on a lancé un projet, donc c'est un projet long terme, peut-être un an, quelque
ouais.
chose comme ça. Mais on a trouvé un peu la forme là. Ça va être un livre qui va être tourné sur la quête de soi, en fait.
Mmh.
Parce que c'est très dur d'apprendre à se connaître. C'est très dur, c'est le travail d'une vie.
Ah oui, mais complètement.
Et en fait, ce dans quoi j'ai envie de plonger vraiment là-dedans, c'est y a la rencontre de soi à travers l'autre et à travers soi.
Mm-hmm.
En fait, il y a deux paramètres, c'est l'interne et l'externe. Et donc, c'est un peu ce qu'on était en train de parler. Donc, tout ce qui va être externe, ça va être les gens qu'on va rencontrer,
mm-hmm.
les différentes cultures qu'on va rencontrer.
Mm-hmm. Les influences externes.
Ouais. Moi, ma plus grande richesse, je considère aujourd'hui, c'est pas l'argent que j'ai sur mon compte en banque ou peu importe. Ma plus grande richesse que j'ai aujourd'hui, c'est les rencontres que j'ai pu faire,
mm-hmm.
les moments de partage
ouais,
que j'ai pu
tout à
faire.
Fait. Mais c'est intéressant que tu dises ça, parce que dans un épisode qui s'en vient dans le podcast, on parle de cette quête du bonheur.
Ouais.
Et comment tu trouves cette quête du bonheur? Et je fais référence à un épisode de TED,
ouais.
où c'est la plus longue, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais la plus longue étude sur la recherche du bonheur. C'est quoi le bonheur? Comment on atteint le bonheur? Et la résultante de cette étude-là, qui a été sur plusieurs générations, c'est cette connexion humaine, la puissance du lien humain, pas mm-hmm. forcément en quantité, mais en qualité,
ouais.
en qualité de lien.
Mais ça, tu vois... Encore une fois, là, sur le travail qu'on a fait des interviews,
mm-hmm.
sur le film de la Diag, on a fait 10 interviews.
Ouais, ouais.
Donc, 7
Mais
personnes.
On va revenir sur la Diag,
ouais.
parce que je ne suis pas sûre que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui
ouais.
Connaissent ce que c'est la Diagonale des Fous. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, quel a été ce défi, comment tu t'es préparé à ça et,
Parfait. Donc, comme je disais, j'ai fait un gros build-up en vue de cette course-là, avec toutes
ouais.
les courses que j'ai énumérées tout à l'heure. La Diagonale des Fous, c'est une des courses les plus dures au monde. En ultra trail, qui fait 165 km, 10 000 mètres de D+, sur des terrains qui sont caillouteux, racineux. C'est la traversée de l'île de la Réunion.
Ouais,
c'est, la traversée
c'est vraiment
de l'île de la, Réunion.
La diagonale. Tu le montes de bas en haut,
ouais, de bas en haut.
Tu traverses l'île de
ouais.
la Réunion, quoi.
Ouais, tu commences à Saint-Pierre, tu arrives à la Redoute, au stade, où là ils t'attendent. Après, donc voilà, donc c'est une course qui nécessite une vraie préparation.
Ouais, ouais, ouais.
En fait, pour revenir sur mon basculant vers l'ultra trail,
ouais.
j'ai fait troisième sur le 62 km des ultra trails des Chic-Chocs il y a comme 3 ans.
Ouais.
Et il y avait deux distances, il y avait le 62 et 113, il n'y avait pas de distance intermédiaire. Et ayant fini le 62, je m'étais dit, je vais mettre sur la distance d'après, 113. Sauf que c'est un putain de gap.
Ouais,
et surtout, quand tu vas jouer dans les chic-chocs. Et donc là, je me suis pris un mur. En fait, j'avais fini mon Ironman et tout, je me dis, tu sais, les Ironman, ouais, on aime bien se la péter, les Ironman,
ouais, ouais,
les
ouais.
Ironman et tout. Mais va faire un 113 km au chic-choc ou ailleurs.
Ouais.
C'est pas la même chose. Parce qu'en triathlon, le mâle, il change de place. Alors qu'en course à pied,
ouais, ouais.
Eh ben, le mâle, il est toujours à la même place. Et donc en fait, voilà, c'est ça. Je me suis pris mon premier DNF sur le 113 km des chic-chocs où j'ai abandonné. J'étais cinquième. Mais j'ai trop mal aux pieds, pas assez entraîné pour le niveau de la course
trop
et tout.
Difficile.
Et donc, je me suis dit, c'est là où je me suis dit, OK, mais là, maintenant, je veux switcher vers ça. Et donc, tu sais, c'est comme des étapes à franchir parce que. Et chaque objectif, le principal, c'est pas de regarder les objectifs des autres, le principal, c'est de regarder ses propres objectifs. C'est ça qui est important. Quelqu'un qui termine un 5 km, qui a travaillé fort pour ça et qui est super heureux, eh ben tant mieux.
Ouais,
et
bravo.
Heureusement,
ouais,
et
ouais.
On est tous différents.
Oui, chacun son histoire.
Hein. Chacun son histoire. Et puis, je veux dire, la course à pied, ça reste de la course à pied.
Ouais.
Le monde, il va pas arrêter de tourner si on arrête de courir.
Ouais.
Donc, ça reste de la course à pied, c'est quelque chose qu'on fait d'abord pour nous,
ouais.
Pour nous sentir bien. Donc, c'est chacun ses objectifs, ses rêves, ses accomplissements.
Donc, la Diagonale des Fous, ouais. Tu t'y es préparé, c'est 165 km.
Ouais.
Tu fais cette course-là. Et, ouais. Et là, mais déjà, avant même de parler du film que tu es en train de faire, tu es au départ de cette course-là. Parce que là, tu t'y es préparé, pareil, pendant un an. Tu as mis énormément d'efforts. Tu as fait plein de trails et d'ultra-trails pour te préparer à cette course. Après tous ces efforts-là, comment tu te sens au départ de cette Diagonale-là qui est l'une des plus dures au monde?
Ouais, alors je suis soulagé d'arriver enfin à cette course. La saison est longue, 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 longue.
C'est en fin d'année en plus.
C'est en octobre.
En octobre.
La première course, hein, en janvier, février.
Ouais.
Tout le temps,
mois,
c'est la pression.
Ouais.
C'est ce truc, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable? Parce que ce stress qu'on parlait tout à
l'heure,
ce stress qui te permet de maintenir ton activité parce que t'as peur de l'échec d'une certaine façon. C'est un rêve, t'en parles à beaucoup de monde, tu dis moi c'est ça mon objectif, c'est ça mon objectif, mais c'est un objectif qui est gros, faut pas lâcher le morceau et t'as plusieurs mois devant toi.
Ouais.
C'est pas la course en elle-même qui est dure, c'est tous les mois de préparation avant.
Ouais.
C'est comme sur les Ironman, c'est tous les mois de préparation avant. C'est comme en business, c'est pas dur de vendre.
Non.
C'est pas la vente, c'est tout le travail.
En arrière qui te permet de vendre.
Ouais, c'est tout le travail en amont qui va t'amener à la vente qui est dur à faire.
Ouais, exact.
Mais c'est pareil.
Ouais. Et donc t'es soulagé au départ de cette course.
Je suis soulagé d'être enfin là et de me dire après cette course, je vais pouvoir enfin souffler. Ça fait X mois que je cours 120 kilos par semaine, truc. Waouh, je commence à être fatigué.
Mais physiquement, là, t'es prêt. T'as eu des échecs aussi qui t'ont permis de réapprendre, d'apprendre différemment pour adapter en fait ton corps à cette course-là.
Ouais.
Et tu te dis, ben, ça serait bien de le documenter et justement d'en faire un film.
Exactement.
Et comment ça se passe cette préparation aussi? Parce que ça se fait pas comme ça, faire un film.
Alors, en fait, c'est ça que je me suis dit. J'avais fait un film pour le Canadaman. J'avais un ami que j'avais mandaté pour me faire un petit film. C'est une vidéo de 20
YouTube,
minutes sur
genre.
YouTube.
Ouais.
Et en fait, ce que je trouve super beau, c'est toujours dans le sens de pas vouloir inspirer parce que ce serait prétentieux de dire ça, mais de montrer aux gens que c'est possible. Juste de montrer aux gens que c'est possible.
De raconter ton histoire à travers cette course aussi.
De raconter mon histoire, oui, si on veut, mais je veux pas mettre de l'avant. Le film, le personnage principal du film, c'est la Diagonale des Fous.
On s'intéresse
à la Diagonale des Fous.
D'expliquer ce que
moi.
C'est, de faire connaître,
exactement.
Parce que tu disais aussi que c'était pas forcément une course qui est connue ici au Québec.
Ouais, enfin, si tout le monde connaît plus ou moins la Diagonale des Fous, qui sont dans le monde du trail, connaissent la Diagonale.
Okay.
Maintenant, pas tout le monde sait ce que c'est. Quand tu habites en France, tu as un vol direct. Quand tu habites au Québec, il y a pas de vol direct. C'est comme une course qui est comme à l'autre bout du monde.
Ouais, c'est ça. Et sur une petite île perdue au milieu de l'océan.
Mais que tout le monde connaît, avec des paysages magnifiques, une ambiance de dingue. Et donc, en fait, c'était ça l'idée. C'était que, OK, là, on va potentiellement faire une des courses les plus dures au monde.
Ouais.
On est entraîné.
Ouais.
Il faut qu'on ait un souvenir à vie de ça.
Ouais, il faut que tu t'en rappelles et que tu le partages aux autres.
Ouais, exact. Ouais. Et partager aux autres dans le sens où, encore une fois, c'est possible. On l'a fait, c'est possible. Ces moments sont tellement forts.
Ouais. Mais tu dis, on l'a fait, c'est possible. Mais en même temps, rappelle-moi le taux d'abandon sur cette course-là.
Cette année, c'était 25%.
C'est quand même beaucoup. Hein.
L'année dernière, c'était 35%.
Ouais.
Enfin, l'année dernière, du coup, bah, l'année dernière, 25%.
Oui,
il y a
l'année
deux ans,
d'avant,
35%.
Ouais, c'est ça.
Oui, bah, forcément, quand tu vas sur une diag, tu peux être sûr que tu vas avoir des abandons parce que tu as des blessures, tu sais pas. Ouais. Moi, je me suis ouvert la tête au 21e kilomètre. J'aurais pu me dire, bah non, ouais. Vraiment pas.
Et
vraiment
c'est une pas. Course, en plus, qui est physiquement et mentalement difficile parce que tu t'arrêtes pas. Tu vas pas dormir. Tu sais, des fois, il y a des courses à relais ou des courses étapes. Mais là, c'est une course, tu pars le matin et t'arrives plusieurs jours plus tard. Quoi.
Ouais, tu gères ta course comme tu veux. Tu as un cut-off de 66 heures.
Ok.
Plus tu vas être compétitif, moins tu as intérêt à t'arrêter.
Ouais.
Moi, je l'ai fini en 38h47, ce qui me classe 240e sur 3000 coureurs à peu près.
Ouais.
Sachant que tu as le plateau des meilleurs mondiaux, François Daen, tout ça, Nicolas oui. Dunampalaz, enfin, tu as plein de légendes qui sont là, du monde du trail.
Mm-hmm.
Et c'était mon premier 100 miles. Et je suis arrivé deux jours avant la course, donc je ne connaissais pas le terrain.
Ouais, c'est ça, tu as le décalage horaire, tu ne connais pas le terrain.
J'avais le décalage horaire, j'étais vraiment malade la veille de la course. Bref, je n'ai pas eu tous les paramètres comme vraiment
t'aurais voulu.
En ma faveur.
Mm-hmm.
Mais c'est pas grave. Il fallait que je fasse avec.
Ouais,
et puis
ça.
La saison, je ne pouvais plus de ma saison. Il fallait qu'elle se termine, cette putain de saison.
C'était
l'objectif. Maintenant, on était là, j'étais entraîné. Il faut y aller.
Ouais.
Et donc là, tu es sur le départ de cette course. Et donc, tu sais, tout le bagage, c'est un peu comme la photo du podium, là,
mm-hmm.
où tu vois les 1, 2, 3 sur le podium, là, la pointe de l'iceberg.
Ouais.
Mais derrière, tu as tout le travail qui est fait en
ça.
Amont
pour
être là.
Ouais, exact.
Ça, c'est que ce qu'on voit, ça.
Oui, tout à fait.
Le 240e ou premier ou peu importe, c'est ce que tu vois.
C'est le résultat.
C'est
pour ça que c'est important d'apprécier le chemin et pas juste le résultat.
100%. C'est pour ça que c'est important de s'entourer aussi.
Mmh.
Parce que quand tu pars sur des chemins qui sont longs et sinueux, comme des préparations à ce genre de course, eh ben, nous, on était un groupe de 4, 5 où on s'entraînait tout le temps, tout le temps, ensemble, toutes les courses. On était au moins trois sûrs à faire quasiment toutes les courses ensemble pendant toute l'année.
Qu'est-ce que tu as appris sur cette Diagonale des Fous ?
Sur la course en elle-même ?
Ouais.
J'ai appris, encore une fois, que quand on veut, on peut, déjà. J'ai appris que le sens du partage, nous, on se retrouve avec une communauté qui est incroyable ici et c'est super, et Greg il fait un super travail à la boutique
Courir,
enfin voilà, il y a plusieurs groupes qui font un super travail. J'ai appris beaucoup sur moi, sur cette course, enfin sur la préparation, sur le chemin, plus que la finalité. J'ai appris plus sur le chemin que sur la finalité. Ça a été une année compliquée pour moi émotionnellement, j'ai comme une séparation, j'ai eu du mal un peu à gérer et puis et j'ai eu des choses qui ont été un peu compliquées, mais j'étais tellement passionné et qu'il fallait que j'aille au bout de ma mission, c'était comme ma quête quoi, j'ai accepté de sacrifier beaucoup. J'ai plein de moments que j'ai ratés avec des proches. On retrouve dans mon partage. Que j'ai arrêté de partager avec ceux-là, on va dire.
Mm-hmm.
Mais j'ai partagé avec et j'ai rencontré d'autres super belles personnes.
Donc finalement, tu retiens que ça, le dépassement de soi, c'est possible, que tout est possible tant qu'on met l'effort, que la création du lien aussi avec les autres, le partage aussi dans des communautés avec des gens qui ont des valeurs communes.
Ouais.
Ça, c'est des choses que tu as appris à la fois dans le build-up, comme tu dis, pour cette course-là, mais aussi pendant la course. C'est ce que tu as fait après la course, justement, avec le film. Donc le film, c'est il nous reste encore quelques minutes pour le podcast, mais ce film-là, c'est quelque chose que tu voulais comme partager, donc tu travailles aussi en équipe avec plusieurs personnes qui ont des compétences et des qualités différentes. C'est un film aussi où tu fais des entrevues parce que le but c'est pas de mettre toi comme héros principal du film, mais plutôt de mettre justement cette course là pour la montrer en fait au monde entier et dire ben voici comment cette course a été faite et plusieurs témoignages aussi de coureurs et professionnels du milieu qui sont connus dans le monde du trail.
Exact.
Et donc ça s'en vient bientôt.
Ouais. Exactement. Donc moi, l'objectif pour moi, ce film-là, c'était vraiment de faire un témoignage de la Diagonale des Fous par des Québécois, pour des Québécois dans un premier temps.
Ouais.
À savoir qu'on a donc 10 interviews, effectivement, dans le film. Donc 3 personnes de l'île de la Réunion. Donc on a Pierre Monnier qui est le directeur du Grand Raid. On a Ludovic Collet qui est la voix et de l'UTMB et de la Diag. On a Antoine Guillon qui avait gagné Arikana 125 l'année dernière avec Jean-Philippe Thibaudot et Cédric. Et qui a gagné notamment la Diag en 2015 et qui a fait plusieurs fois deuxième. Et donc, des gens passionnés. Et après, au Québec, on allait chercher aussi des gens qui sont passionnés de ça et qui ont quasiment tous fait la Diag et donc qui peuvent nous parler de la course. Et donc, on a des allers-retours entre notre évolution sur la course, les différents éléments que tout le monde voit quand ils viennent sur cette course-là, et ces témoignages de la course. Donc, en fait, voilà, on a fait l'exercice, je pense, jusqu'au bout, où on a ces témoignages, on a le parcours de la Diag, on a récupéré pas mal de vidéos de drones, j'en avais fait quelques-unes, on en a récupéré d'autres.
Ouais, j'ai vu quelques images, ça promet d'être très beau.
on essaie de faire de notre mieux, en tout cas. Et puis, on est allé racheter aussi des images. On a récupéré quelques images de Canal+, qu'on a eu le droit de mettre dans le film pour avec l'autorisation de, du Grand Raid. Donc voilà, on essaie de faire l'exercice jusqu'au bout.
C'est, puis on va voir ce film-là sur grand écran aussi.
Ouais, l'idée c'est de le mettre sur grand écran. On va faire une avant-première avec des partenaires potentiels. Et puis derrière, une fois qu'on l'a diffusé, qu'on a vu un peu les partenaires qui étaient prêts à nous suivre, et ben on va voir un peu la stratégie de diffusion. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est de faire un témoignage de la Diag pour parce que devant tout le build-up que j'ai fait l'année dernière, je prépare la Diag. Oh, la Diag, j'aimerais trop la faire et tout. On va montrer, on va mettre des images sur tout ça.
Ouais, c'est ça, pour illustrer justement l'expérience vécue. Ouais. Excellent. Mais comment alors on pourrait te rejoindre si on voudrait voir ce film ou prendre contact avec toi parce que les projets intéressent?
Ouais, exact. Écoute, je suis joignable sur Instagram, pas mal. Donc, Julien Dauplay, D-A-U-P-L-I-S.
Parfait.
Et donc, c'est pas mal là où je suis très, très joignable.
Actif.
Très actif. Et puis après, moi, je suis assez ouvert à pas mal de projets.
C'est quoi ton prochain défi?
Alors là, déjà, je suis en train de finaliser le film, le diffuser. Je suis réinvité sur pas mal de courses au Québec cette année. Je considère que j'ai une vie pour apprendre à me connaître et puis essayer d'en faire profiter au maximum les gens autour de moi. Et plus je me connaîtrai, j'arriverai à me mettre sur mon X, plus potentiellement, je pourrais apporter aux autres. Parce que
tu te sens pas déjà sur ton X?
Je me sens sur mon X. Il manque encore des petits éléments pour que je sois 100% sur mon X. Mais j'y travaille fort. J'ai tellement de projets, d'idées, de choses.
Il y en a d'autres, t'es inarrêtable.
Je sais pas si je suis inarrêtable, mais il y a ce projet de livre, il y a ce projet de film.
Ouais.
Voilà. Et puis après, oui, la course, ça va être quelque chose qui va me suivre. Ça fait partie de mon X aujourd'hui.
Ouais.
Ça fait partie de moi et des gens que je rencontre et de ce qui me fait sentir bien dans mon corps. C'est bien, c'est important d'être bien dans son corps.
Ouais, clairement. Mais le sport y contribue. Physiquement, mentalement, ça y contribue.
Physiquement, mentalement. Ça y contribue à 100%. C'est ça, quand je disais rêve grand, rêve tôt.
Ouais.
Rêve tôt.
Ouais.
Parce que plus tu le fais
et
tôt.
Et fais-le, en fait. Lance-toi.
Et lance-toi. Ouais. Il y a trop de gens qui restent paralysés. Et j'en étais aussi. Hein. J'ai eu des moments où j'étais paralysé sur certaines choses.
Ouais.
Et paralysé sur certaines choses parce que je mettais mon niveau d'énergie aussi. Dans le sport, il y a un truc qui m'a un peu frustré l'année dernière à la fin, c'est que j'ai l'impression d'être défini uniquement parce que j'étais un coureur.
Oui, c'est
sauf
ça.
Que je suis pas plus que ça. Juste un coureur.
Ouais. Non, c'est ça.
Et il y a plein d'autres choses que j'ai envie d'exploiter.
Ouais.
Et c'est ça, derrière aussi, où il faut faire attention à ne pas tomber dans un piège qui t'enferme dans une boîte qui, en fait, ne te définit plus et t'écarte de ton X parce qu'il y a cette recherche de performance et tu sais, si tu veux être performant,
Il
faut que tu t'entraînes fort. Mais t'as ce risque de t'enfermer dans une boîte qui t'écarte de ton chemin de vie, de l'enfant intérieur, la personne qui voulait devenir.
Ouais, clairement. Mais merci pour ces belles paroles, Julien. Ouais. On va conclure avec les deux dernières questions.
Ouais.
Ça serait quoi ton inspiration ou qui t'inspire aujourd'hui?
Alors, j'étais sur le trail, je ne vais pas le mentir, Mathieu Blanchard m'a pas mal inspiré aussi bien dans sa façon d'aborder les choses. On voit, c'est un ingénieur aussi là, mais on voit dans sa façon, dans son approche de voilà, il était blessé, il a quand même pris le risque de quitter son boulot. Prise de risque. Prise de risque.
Ah oui, prise
important.
De risque.
Mon père, moi, il était ingénieur en Afrique. Quand il est rentré en France, il s'est mis en musicien, quitter sa passion. Il a perdu financièrement. Mais il a gagné parce qu'il a réalisé ses rêves. Mais il a pris des risques. Donc, il y a ce côté prise de risque. Donc, les gens qui prennent des risques déjà, et l'entrepreneuriat aussi, c'est inspirant. Il faut prendre des risques mesurés, mais il faut savoir prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu vas rester salarié toute ta vie.
Ouais.
Tu vas être en fait le produit de la société, de ce que la société veut de toi.
Ouais.
Mais tu ne deviendras jamais vraiment ta propre personne, tes propres rêves. Tant que tu es salarié, et je néglige pas les salariés du tout, parce qu'il y a besoin de tout pour faire un monde, et je suis aussi salarié présentement. Hein.
Oui.
Mais c'est très bien parce que tu contribues à des projets qui sont plus grands que ta personne, en fait.
Ouais, tout à fait.
Mais c'est quoi tes rêves et tes projets à toi? Et donc, c'est cette prise de risque de aussi y aller.
Mais oser. Finalement, sortir de ta zone de confort, c'est prendre un risque.
Exactement.
Ouais.
Et donc, Mathieu Blanchard, je trouve qu'il a super bien tout enchaîné. Que ce soit Koh-Lanta, que ce soit, OK, il n'y a pas de course, je vais faire un film, confiné. Boum, il arrive, cinéma du musée, tac. Il rêvait de l'UTMB, de le gagner. Bon, il a fini deuxième. Mais il s'est donné les moyens pour. Et en fait, les gens qui m'inspirent aujourd'hui, c'est les gens qui vont au bout de leur rêve. C'est les gens passionnés. Et vous êtes passionné. Faut être passionné pour aller au bout de ton rêve. C'est quelque chose qui vient te chercher de l'intérieur.
Ouais, la flamme dont tu parlais.
La flamme. C'est quelque chose qui te brûle, qui te démange de l'intérieur de « je veux le faire, je dois le faire ».
Ouais.
Et ça, tu le retrouves beaucoup chez les entrepreneurs.
Ouais.
Les entrepreneurs qui ont cette vision. Et il y a des gens, après, voilà, c'est différents types d'entrepreneurs. Il y a des gens qui montent des business pour faire de l'argent. Il y a des gens qui montent des business pour faire de l'argent, pour, avec cet argent, vivre de leur passion.
Mm-hmm.
Et moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que j'aimerais faire l'inverse, en fait. J'aimerais d'abord comprendre ma passion, mon X, pour essayer de développer du business par rapport à ça. Alors là, on est au lancement.
Là,
on
t'en lances plein en même temps pour voir qu'est-ce qui marche le mieux.
Et... Mais je suis que associé avec des gens qui sont passionnés.
Ouais,
et donc,
sûr.
Ils font en sorte que quand je ne suis pas là, bah, ça roule. Parce qu'il n'y a pas besoin justement de continuer à maintenir la flamme en permanence.
Ouais.
Parce que sinon,
elle
c'est
s'auto-alimente, cette
flamme. Elle s'auto-alimente par l'essence que les autres ont aussi.
Okay.
Et donc voilà. Donc moi... Pour te répondre à ta question, moi, je suis inspiré de base par les gens qui osent y aller, qui travaillent fort pour y arriver et qui ont des rêves et qui s'en donnent les moyens.
Et qui vont jusqu'au bout de leur rêve.
Excellent.
Mais merci beaucoup. La dernière question, la question signature du podcast Allo Anaïs Coaching, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, admettons, se lance, que ce soit dans le sport ou dans une activité entrepreneuriale?
C'est... meilleure chose que je peux dire, c'est vas-y. Tu veux le faire, fais-le. Ta vie t'appartient, ton temps t'appartient, fais-le. C'est juste, je peux juste dire, vas-y. Par contre, plus tu vas rêver grand, plus ça va prendre des sacrifices et du temps.
Donc d'être conscient de ça,
d'avoir cette conscience, cette prise de conscience de l'effort que tu veux faire, eh ben, il va nécessiter des sacrifices. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, c'est entoure-toi pour profiter du chemin. Parce que le sommet de la montagne, une fois que tu y es, tu vois la vue, mais la grosse partie de la job, c'est le chemin que tu fais pour arriver en
clairement.
Haut de la montagne. Donc la meilleure chose que je peux dire, c'est, et que moi-même, j'ai pas forcément fait pendant longtemps, c'est arrête de regarder juste le sommet, fais en sorte de profiter du chemin et entoure-toi pour profiter du chemin. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner.
Excellent, mais merci beaucoup Julien. Merci beaucoup pour votre écoute. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour un épisode justement sur les croyances, en fait, les fausses croyances qui nous maintiennent dans l'échec. La petite voix aussi qu'on a dans la tête qui nous immobilise et nous empêche d'avancer dans la vie. Donc ça va faire un lien parfait avec l'épisode du jour. Sinon, en attendant, on se retrouve sur mon blog alloanaïs-coaching.com, sur Instagram et LinkedIn.